C'est impressionnant, hein? Non. Ah, Alice est toujours là pour m'encourager. Une fois, j'étais venu, elle me dit, mais faut aller de l'avant, hein? Voilà. Alors, on a parlé de Jésus, du Seigneur Jésus, et Jésus, il a accompli son ministère ici pendant plus de 3 ans et demi, etc. Et son ministère, bien sûr, n'a pas été toujours facile, loin de là. Cela l'a conduit à la croix. Il a eu aussi des grandes joies à rencontrer des hommes. Et parfois aussi, il y a eu des entretiens difficiles. Mais là, c'est un entretien que finalement je trouve sympathique, mais avec quelques points d'interrogation. Voilà, je vous propose la parabole du bon samaritain. J'en avais parlé déjà une fois ici, mais je voudrais cette fois-ci parler de cette parabole qui est magnifique, qui nous montre combien c'est important d'aimer son prochain. Et parfois, ceux qui devraient l'aimer, eh bien, peut-être passent à côté de ce point, de la plaque, comme on dit. Mais surtout, je voudrais parler de la façon dont le sujet a été amené, de l'entretien avec ce docteur de la loi, on peut dire aussi professeur de la loi, etc. Et de la façon dont il s'y est pris, et de son intérêt aussi, quand même. Voilà, je vous invite à lire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10 et au verset 25. Et nous lirons jusqu'au verset 37. Alors, hein, Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?»« Seigneur, lui dit, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? Qu'est-ce que tu lis dans la loi ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et aussi ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent en le laissant demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre, c'est-à-dire lévita. Un lévite. Alors le sacrificateur, c'était celui qui faisait des sacrifices dans le temple. Donc il avait une fonction très importante. Le lévite, c'était celui qui l'assistait, essentiellement dans le temple, qui s'occupait des ustensiles, mais aussi qui parfois expliquait la loi. Ceux qui expliquaient la loi, c'était surtout le docteur de la loi ou les scribes. D'accord ? Eux, ils avaient une fonction. Parce qu'il fallait interpréter la loi. Et il y avait plus de 600 commandements pour interpréter la loi, et la loi de Moïse qui était surtout consignée dans le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Mais que l'on retrouve aussi de manière reprise dans, bien sûr, les livres historiques, dans tout l'Ancien Testament. Et puis dans les psaumes aussi. Mais la loi en elle-même, vous savez, le décalogue a été donné dans l'Exode au chapitre 20 est repris après dans le Deutéronome. Pour la deuxième génération qui traversait le désert, puisque ça a pris 40 ans. Donc, un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre, ou lévita. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, donc de sa poche, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? Hein, c'est Jésus qui pose cette question au docteur de la loi. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Est-ce que Jésus a répondu directement à la question du docteur de la loi? Il a répondu, mais indirectement. Nous allons voir tout cela. Il est dit, un docteur de la loi se leva. Donc, les gens, il y avait une foule qui était rassemblée et qui écoutait l'enseignement de Jésus. Et ce docteur de la loi, probablement un peu à la fin, après quelques explications, il s'est levé et a dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» On voit, alors, il y a quelque chose qui, nous, après bien des siècles, nous qui avons bénéficié finalement des retombées de la réforme, où il est dit, vous savez, la sola fide, il y a au moins 3 sola, c'est-à-dire la parole seule, et la grâce seule, et Jésus-Christ seul. Eh bien, bien sûr que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et ce n'est pas par les œuvres. Et alors, d'entrée, lorsqu'il dit « Maître, que dois-je faire pour hériter, pour obtenir la vie éternelle ?» Est-ce que c'est véritablement une question de faire ? Alors, d'emblée, non, oui et non, mais Jésus va répondre indirectement. Pourquoi ? Parce que pour obtenir la vie éternelle, c'est en fait la vie éternelle, c'est un synonyme, c'est le fait d'avoir le salut, c'est le fait d'être sauvé pour l'éternité. La vie éternelle, c'est passer, c'est ce qu'on appelle aussi le paradis, c'est passer l'éternité dans la présence de Dieu, dans la joie de Dieu, dans la félicité, et ne pas passer l'éternité dans le jugement, dans la punition, dans les peines éternelles. D'un côté, les joies éternelles, de l'autre côté, les peines éternelles. Mais cela, c'est une décision que l'on prend du temps de notre vivant. Et nous tous qui sommes là ce matin, on montre que ça nous a travaillé, que la vie éternelle, on y est attaché. Et la vie éternelle, comme je vous ai dit, c'est l'espérance. Alors, pourquoi parle-t-il de la vie éternelle ? Moi, pour moi, j'ai un petit peu réfléchi, parce qu'il est dit « il se leva pour l'éprouver ». On pourrait dire « se leva peut-être pour le piéger ». Mais c'est pas sûr, hein, on interprète, c'est pas sûr que le docteur de la loi voulait foncièrement piéger Jésus. Je pense que, et j'ai regardé un petit peu les harmonies, vous savez, on essaye de présenter tous les événements des 4 évangiles. et de voir comment les événements qui se sont passés dans Matthieu, puis dans Luc, puis dans Jean, parce que Matthieu, Marc et Luc se ressemblent beaucoup, mais Jean est un petit peu à part. Et c'est surtout dans Jean qu'il est question de cette vie éternelle, mais aussi dans les autres évangiles. Mais dans Jean, Jésus a pris soin de bien l'expliquer. Et je pense que le docteur de la loi et les docteurs de la loi, voyant Jésus, ils se demandaient, mais qui c'est cet homme? On l'entend dire qu'il a la capacité de pardonner les péchés. Il fait tout un tas de miracles, au point que certains d'entre eux sont venus le voir. En particulier un que vous connaissez, Nicodème. Il est venu voir Jésus de nuit, parce qu'il voulait pas, il voulait rester dans la discrétion. Et il lui dit ceci, alors, je vais chercher dans Jean au chapitre 3. Voyez, au verset 1, il y eut un homme d'entre les pharisiens qui ont été tellement durs avec Jésus, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Donc c'était un chef qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et qui lui dit, « Rabbi ou maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Donc, docteur dans le sens de la doctrine, de la loi. Hein. « Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Donc, il a été logique et il a été honnête. Parce que les Juifs et les pharisiens notamment ont rejeté Jésus parce que Jésus leur a montré que finalement, au fil du temps, ils avaient remplacé l'amour de Dieu, les commandements, mais ils les avaient remplacés par tout un tas de traditions. Et finalement, il leur dira, mais finalement vous mettez sur les épaules du peuple un fardeau que le peuple ne peut pas porter. Des contraintes. Vous avez transformé finalement ce que la parole, l'enseignement, bien sûr, de l'Ancien Testament, de la loi, a un véritable carcan. Voyez ? Bon, il n'a pas employé le mot carcan, mais des mots synonymes. Et alors, les pharisiens étaient en colère. En plus, Jésus s'est permis de faire des miracles le jour du sabbat. Oh là là ! C'était une véritable profanation pour eux. Alors que Jésus leur a dit, mais si vous avez votre chèvre, votre animal qui tombe dans le puits, vous allez bien le ramasser. Et moi, je ne pourrais pas délivrer un homme alors que vous allez délivrer votre bétail. Vous voyez, c'était pour mettre en lumière parfois leurs contradictions. Et donc, cet homme se rend bien compte. Et Jésus va lui expliquer, il va lui dire à Nicodème, tu sais, il faut que vous naissiez de nouveau. Et Nicodème se dit, mais comment naître de nouveau? Je suis adulte, je ne peux pas rentrer à nouveau dans le sein, dans le ventre de ma mère et renaître. Bon, parce qu'il prenait au mot, mais c'était la nouvelle naissance, on y a fait allusion. Quand on accepte Christ comme notre sauveur, quand on reconnaît son sacrifice, en même temps, l'Esprit Saint, c'est la Bible qui nous dit, Dieu, par son Esprit Saint, vient habiter en nous. Et si bien que l'Église, c'est le temple du Saint-Esprit. Et nous-mêmes, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous n'allons plus au temple, mais nous nous réunissons. Et ce n'est pas les lieux, ce n'est pas les murs qui sont importants, mais c'est nous-mêmes, la communauté, qui représente ce temple de Dieu. Et à la fin de son entretien, dans ce chapitre 3, Jésus rappelle à Nicodème. Il lui dit, de la même façon, tu dois connaître certainement cette histoire des serpents brûlants dans la traversée du désert. Bon, le peuple s'est rebellé, il a perdu patience et il a murmuré contre Moïse et contre Dieu en disant, mais finalement, on était 10 fois mieux en Égypte. De seul coup, ils ne se rappelaient plus que c'était des esclaves. Pourquoi? Parce qu'on avait de quoi manger, et là, ce désert. Et Dieu, pour les punir, a envoyé des serpents brûlants. Et ceux qui étaient mordus par le serpent mouraient. Et alors, Ils ont crié, ils ont dit, ils ont supplié Moïse à ce moment-là, le peuple. Ils ont compris que ce qu'ils avaient fait était grave. Et ils ont dit, écoute, demande à Dieu ce qu'il faut faire. Et alors Dieu a dit, mais écoute, tu vas prendre une perche et sur le haut de la perche, tu vas mettre un serpent brûlant, un serpent en airain, pardon. Et ceux qui regarderont à ce serpent n'aura pas une valeur magique, mais ceux qui regarderont à ça, en fait, ils regardent à Dieu et ils regardent avec humilité, avec repentance, et ceux-là seront guéris. Mais c'était une préfiguration de quoi ? Du sacrifice suprême de Christ, qui lui aussi, sur la perche, mais sur la croix, a été sacrifié. Et nous, qui parvenons à la fin des siècles, je cite la parole, si on regarde à Jésus-Christ et si on croit en lui, de la même façon, eh bien, on est sauvé. Il y a quantité d'exemples symboliques qui préfigurent le grand sacrifice de Christ que nous avons commémoré ce matin par le pain et le vin et la scène. Voilà, alors il lui dit, et comme Moïse éleva le serpent au verset 14 dans le désert, il faut, c'est une nécessité, de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et regardez au verset 15 de ce chapitre 3, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous voyez, vie éternelle. Est-ce que Jésus a dit, afin que quiconque pratique tout un tas de bonnes œuvres, n'oublie pas de donner la dîme, ou vient tous les dimanches, ou je ne sais pas, pour avoir la vie éternelle. Non, il faut croire, il faut se rendre compte. Mais bien sûr que, une fois qu'on a cru, et surtout Jacques a dit que la foi sans les œuvres, eh bien elle est morte, bien sûr qu'ensuite on prouve notre amour pour Jésus, notre amour pour Dieu. Nous sommes conséquents avec nous-mêmes et nous pratiquons les bonnes œuvres. Et puis ça nous rassure. Et je dirais que le fait de pratiquer les bonnes œuvres, ça nous fait du bien. C'est quelque chose d'important. C'est un petit peu la vivre. Et puis on se rend compte que c'est pas facile. Et à ce moment-là, on s'appuie de plus en plus sur Dieu. Mais au départ, la grâce, la foi, c'est elle qui nous fait rentrer dans le royaume de Dieu et qui nous permet d'avoir la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il a fait cadeau de son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, je reviens à Luc au chapitre 10. Au verset 25. Donc, quand il dit « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Ouh là là ! C'est vrai, il s'interroge, il se pose des questions sur la vie éternelle, et ça, c'est tout à son honneur. Et on voudrait bien que nos contemporains se posent cette question. Tant mieux pour ceux qui se posent ces questions. Et nous-mêmes, on doit peut-être témoigner pour qu'ils arrivent à se poser cette question. Mais lui, la dissonance, c'est de dire « Que dois-je faire ?» Et bien sûr, Jésus, à ce moment-là, n'était pas encore mort sur la croix. Et puis, c'est ce que nous appelons la religion, un petit peu, la religion des mérites, ce que l'on doit faire. Non, c'est croire, c'est accepter ce que Jésus-Christ a fait. Alors, j'ai dit que cet homme, certainement, les pharisiens, hein, parce que les docteurs de la loi, c'était une confrérie, c'était un groupe, un clan, et ils dirigeaient la vie religieuse de l'époque. Jésus avait parlé déjà à Nicodème de la vie éternelle. Et à qui avait-il parlé de la vie éternelle encore ? À quelqu'un de bien particulier, à une femme. Cette femme qui venait au puits et qui avait puisé de l'eau, donc la femme samaritaine. Et là, il lui dit, « si tu puises de l'eau, mais si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Par contre, si tu bois de l'eau que je te donnerai, l'eau de mon enseignement, l'eau aussi de ma mission, de tout ce que je vais faire, à ce moment-là, cette eau va rejaillir jusque dans la vie éternelle. Et puis la femme lui dit, oh, mais donne-moi de cette eau, comme ça je ne viendrai plus puiser, je n'aurai plus la corvée. Vous voyez, elle est restée très théorique. Mais Jésus parlait d'une autre eau, l'eau qui nous nourrit, l'eau de la parole de Dieu, l'eau de son enseignement, l'eau de son qui résulte de son sacrifice. Et puis au chapitre 6 encore, j'ai noté ça de l'évangile de Jean, il dit aux gens qui sont avec eux, et alors qu'ils viennent de déclarer qu'il est l'égal de Dieu, et ça provoque une telle réaction vers les pharisiens, chez les pharisiens, qu'ils prennent des pierres pour le lapider. C'est insupportable pour eux, parce qu'ils n'ont pas vu en Jésus le Fils de Dieu. Ils n'ont pas vu la promesse que Dieu avait faite. Ils n'ont pas compris que Jésus était prévu, était prédestiné de toute éternité. Lui, le Fils de Dieu. Lui, la deuxième personne de la Trinité. Tout ça, ils ne l'avaient pas accepté. Et Jésus leur dit, ne travaillez pas pour la nourriture, parce qu'il a dit aussi, je suis le pain de vie. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Le pain durcit, mais travaillez pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y avait des rumeurs. Et je suis certain que les docteurs de la loi, les pharisiens, se sont dit, mais qui c'est celui-là? Il pardonne, il parle de vie éternelle. Et la vie éternelle, il ne dit pas que c'est en Dieu, il dit que c'est à croire en lui. Et pour eux, c'était terrible, et c'est pour ça. Alors il est venu là. Et je crois qu'il y avait un mélange chez ce docteur de la loi. À la fois, il était intéressé de savoir ce que Jésus allait répondre. Il était curieux, c'était une bonne curiosité. Et en même temps, il voulait confronter les réponses de Jésus par rapport, bien sûr, à la loi. C'est pour ça qu'il est dit pour l'éprouver. C'était pour le confronter à son enseignement. Parce que lui-même était vraiment celui qui distribuait cet enseignement. Vous voyez, et Jésus, à la place de Jésus, peut-être, si ça se reproduit maintenant, on dira, on expliquera, et c'est normal, et on doit le faire avec beaucoup de douceur, parce que pour les gens qui croient et qui pensent que oui, c'est en faisant le bien, hein, c'est ça, en faisant le bien par les mérites, qu'on a la vie éternelle. Il faut leur dire avec beaucoup de douceur que, avant tout, oui, le chrétien doit faire le bien. Il doit prouver qu'il est chrétien en faisant le bien. C'est une preuve qu'il a accepté Christ. Mais au départ, la vie éternelle, le salut, eh bien, c'est une grâce de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Et alors, il ne le remet pas du tout en place, hein? Il ne fait pas valoir toute sa supériorité, sa divinité, mais il lui dit, Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Toute la loi, tout l'Ancien Testament, il faut le résumer. Est-ce que cet homme a été capable de résumer la loi? Oui, c'est magnifique. Alors on va voir que il a pu le faire parce qu'il y a une raison. Il y a plusieurs raisons. C'est des versets qui étaient connus. Alors, qui lis-tu? Verset 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Je crois qu'on peut dire de toutes tes pensées. Et ton prochain comme toi-même. D'après des commentaires, les Juifs de l'époque de Jésus, réciter cela deux fois par jour, ces deux versets. Alors, le premier verset, c'est dans le Deutéronome, au chapitre 6, où il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, au début du chapitre 6. Et l'autre, ton prochain comme toi-même, c'est écrit dans le Lévitique. C'est, il y avait une cohérence à lier ces deux versets. Parce que peut-on dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas son prochain? Non. D'ailleurs, cela est fortement rappelé par Jean dans son épître. Hein. Personne ne peut aimer Dieu et haïr son frère. Et de la même façon que Dieu a tant aimé le monde, nous sommes appelés à aimer. Et Jésus, dans le sermon sur la montagne, il a dit « Mais moi, je vous dis aussi d'aimer même vos ennemis. » Et des fois, même ceux qui nous sont défavorables, nos interlocuteurs parfois, eh bien, on doit crier à Dieu pour ne pas se laisser accabler et continuer de les aimer. Des fois, un voisin, des fois quelqu'un qui nous provoque, ça arrive, bien sûr. Et nous devons compter sur Dieu pour mettre en pratique la Bible. Donc, aimer Dieu a pour conséquence aimer son prochain. Ça va ensemble. Et il a bien fait de citer les deux. Et ce verset, donc, est élu chaque jour par les juifs de l'époque. Et ce n'est pas étonnant qu'il ait été très capable de résumer cela. Mais ce résumé, Jésus, un autre scribe, était venu le voir et pour lui demander, donc un scribe c'est quelqu'un aussi qui étudiait la loi et qui l'enseignait, et qui a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. Et Jésus a cité ce verset du Deutéronome et il a aussi cité l'autre verset, c'est-à-dire ces deux versets qui sont là. Voyez-vous ? Et le scribe a dit, vous pouvez le trouver dans les évangiles, il a dit, eh oui, effectivement. Et ça, c'est la source. C'est même plus important que tous les holocaustes et les sacrifices. Voyez ? Et Jésus lui a répondu, tu n'es pas loin d'entrer dans le royaume de Dieu. Magnifique. Voyez ? Donc toujours, ces deux versets, ça a fait polémique dans les évangiles. Hein ? Bon. Alors Jésus lui dit, il admet qu'il a bien répondu, bien sûr, et il lui dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Il ne lui a pas dit, fais cela et tu auras la vie éternelle. Pourquoi ? Parce qu'il voulait l'amener à réfléchir. Et puis, même s'il avait fait cela, sa compréhension n'était pas suffisamment bonne. Parce que, fais cela, oui, tu vis. Et là, on se retrouve encore dans le Deutéronome. Et dans le Deutéronome au chapitre 30, au verset 16, alors je ne vous le dis pas de chercher dans la Bible pour gagner du temps, il est dit ceci, « En effet, je te prescris, donc c'est ce qui est dit au peuple d'Israël, aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles afin de vivre et de multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Donc là, c'est clair. C'est pas uniquement connaître le verset, mais c'est Deutéronome chapitre 30, verset 16, mais d'appliquer les commandements. Et ailleurs, toujours dans ce chapitre 30, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre. La bénédiction ou la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Donc, le docteur de la loi, en citant ces deux versets, il se rendait bien compte qu'il ouvrait bien sûr tout le chapitre de la loi, il résumait toute la loi. Et entre autres, il connaissait aussi très bien ces versets que je viens de vous lire. Et quand Jésus lui dit, fais cela et tu vivras, là, il s'est dit, Jésus, bon, il savait que Jésus connaissait la loi aussi. Il a dit, Jésus fait allusion à tout ça. Et je crois, franchement, que le docteur de la loi a été dans l'embarras. Pourquoi a-t-il été dans l'embarras? Et il y a des explications à donner là. Est-ce que c'est possible d'aimer le Seigneur, ton Dieu, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée? Hein? Impossible. Impossible. Voilà. Et ton prochain comme toi-même. Que il n'y ait plus d'ego. Que on ne fasse plus, on ne prend plus garde à notre ego. Mais que notre prochain a autant de valeur que nous. Alors, est-ce que l'Écriture se serait trompée? Est-ce qu'il y aurait un enseignement de choses fausses? Non. Mais, comme on l'a dit, c'est un cap. C'est le but. Et Dieu nous demande. Et il nous demande de progresser dans ce domaine-là. Et je crois qu'on peut progresser. Je crois que la compréhension de Dieu, l'amour de Dieu au travers des expériences, au travers de nos difficultés, au travers de nos échecs, avouons-le, on revient à Dieu, on demande pardon et on recommence de l'adorer et on le loue. Et puis, lorsqu'on va voir peut-être un frère ou le pasteur, mais aussi un frère, et qui est passé aussi par là, il va nous aider, il va nous dire ne t'inquiète pas, Dieu pardonne. Hein? Nous avons un avocat qui est Jésus et qui pardonne nos péchés, un avocat auprès de Dieu. Merci pour cet avocat. Mais en tout cas, ce n'est pas, je dirais, cette doctrine qui nous fera hériter du salut, comme on l'a déjà dit. Donc, il a été dans l'embarras. Parce que lui, bien sûr, à l'époque où il demande ça, Jésus n'était pas encore passé sur la croix. Il nous est dit dans les Actes, quand même, que beaucoup de pharisiens et beaucoup de sacrificateurs, je ne sais plus dans quel chapitre, se sont tournés vers Dieu. Voyez, et ont accepté la bonne nouvelle. Même dans l'évangile de Jean. Donc là, on peut se dire, on peut lui pardonner qu'il n'est pas tout à fait bien compris. Mais il cherche à se justifier. Et je crois que là, quand il dit et qui est mon prochain, il dit pourquoi il parle de son prochain. Parce que ça l'embarrasse. Et je pense que ce docteur de la loi, comme beaucoup de gens pieux, eh bien, ont beaucoup plus de mal à aimer le prochain, et même nous-mêmes, qu'à aimer Dieu. C'est-à-dire, en tout cas, le fait de nous dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur », eh bien, on comprend facilement. Même si on n'y arrive pas toujours, c'est vrai, c'est notre Dieu, c'est le Dieu suprême. Donc, c'est normal. Il mérite notre adoration, quelque part. Oui. Et on le comprend parfaitement bien. Mais le corollaire d'aimer notre prochain, ça nous paraît beaucoup plus difficile. Puis c'est pratique. Et comme je l'ai dit, Jésus nous appelle aussi à être concret et nous appelle à la vie pratique. N'a-t-il pas enseigné la parabole de la maison qui a été bâtie sur le sable et puis celle qui a été bâtie sur le roc? Et celle qui est bâtie sur le roc, c'est pour nous enseigner qu'on doit mettre la parole en pratique. L'apôtre Paul disait « la connaissance ». Hein, y compris la connaissance de Dieu, enfle. Mais si nous sommes dans l'amour charitable, cela édifie, etc. Et puis, on a parlé de Jacques, hein, qui nous parle de pratiquer. Donc, très probablement, cet homme a bien compris, et il a bien compris qu'il n'était pas toujours à la hauteur. Et dans sa façon de réagir, il est en train de dire aussi autre chose. Bon, d'une part, ça lui était difficile, et d'autre part, c'est comme s'il disait « Mais c'est qui mon prochain ?» Il n'a pas osé dire « Tu ne vas pas me dire Seigneur, Maître, tu ne vas pas me dire que mon prochain, par exemple, c'est n'importe qui du peuple, des gens qui ne connaissent pas la loi. Moi, je veux bien aimer ceux qui connaissent la loi, parce qu'on peut partager, on est sur un pied d'égalité, on se comprend. D'accord? C'est les gens de mon cercle. Mais le peuple, les publicains, tu te rends compte ce que tu me demandes? C'est pas dit tout ça, mais il avait ça en toile de fond. Et puis certains pensaient comme ça. Mais tu te rends compte? D'ailleurs, les pharisiens avaient fait le reproche à Jésus d'être avec les publicains. Et Jésus leur a répondu, ce n'est pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin de docteurs, mais les malades. Et docteurs du cœur, voilà, c'est bien ceux qui pratiquent le péché, qui ont besoin de comprendre, et souvent ils sont plus ouverts. Et les collecteurs d'impôts, et les publicains, eh bien ceux-là sont des fois beaucoup plus ouverts que vous, parce qu'ils n'ont pas de préjugés. Et puis, peut-être qu'il a voulu dire, « Hey, tu te rends compte, tu ne vas pas me demander d'aimer mon ennemi. » Ah, c'est vrai que la Bible en parle. Mais bon, quand même. Et puis les Samaritains, tu ne crois pas que je vais les aimer? Hein? Ils ont tout mélangé, leur culte, c'est un culte hybride. C'est vrai, ils parlent de Dieu, mais en même temps, ils ont introduit des notions qui ne sont pas dans la loi. Et donc, il y avait... entre les Juifs et les Samaritains, la Samarie qui se retrouvait entre la Galilée au nord et la Judée au sud. Et Jésus a dû la traverser pour aller de Galilée en Judée ou vice-versa. Voilà. Jésus prit la parole à ce moment-là et lui raconte une histoire. Nous ne la détaillerons pas beaucoup. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Quel état pour cet homme ? Dépouillé, chargé de coups et à demi-mort. Quelle situation ? Et est-ce que c'est pas des fois la situation de nos contemporains, je dirais sur le plan moral, à demi-mort? Un sacrificateur qui passait par hasard par là, descendait par le même chemin, et l'ayant vu, se détourna. On peut se poser la question quand même, ce sacrificateur. Lui, dont le rôle principal était d'offrir le sacrifice en mémoire de tout ce qui était écrit dans la loi, en mémoire de tous les sacrifices qui avaient été faits, en mémoire même du sacrifice pascal qui préfigurait celui de Jésus, eh bien cet homme se détourne. Vraiment, on est étonné. Pourquoi s'est-il détourné? Avait-il eu peur qu'on l'attaque lui aussi? Parce qu'on avait attaqué cet homme. Ou alors parce qu'il voulait rester pur pour le service, parce que l'autre, celui qui est tombé au milieu des brigands, était à demi-mort. Donc il a considéré comme mort, et de toucher un mort, c'était une souillure. Et il n'aurait pas pu faire son ministère dans le temple. Le Lévite a fait la même chose, certainement pour les mêmes raisons. Mais un Samaritain, lui, l'ennemi de toujours, lui que l'on méprisait, qui voyageait et est venu là, et il a été ému de compassion. Alors, et puis il a fait plein de choses, on va un petit peu les voir. Quelle a été la clé pour... Et c'est ça, et c'est cette clé que Jésus a voulu rappeler à ce docteur de la loi. Eh bien la clé, c'est qu'il a été ému de compassion. Tout comme Dieu est ému de compassion pour le monde, il aime le monde, il nous aime aussi. Et il est ému de compassion lorsqu'on souffre, comme Jésus a été ému de compassion. Hein? Et au point qu'une fois il a dit, il a tressailli, il a dit, « Je te loue, Père, de ce que tu as caché les choses aux intelligents, aux sages de ce monde, mais que tu les as révélées à tes enfants. » Donc on voit, cet homme s'approcha, il va panser ses plaies, il va verser de l'huile et du vin, l'huile qui était un adoucissant, il n'avait pas tous les médicaments qu'on a à l'époque, et le verre comme un désinfectant. Et puis, parce que cet homme s'est arrêté, ça lui a pris du temps. Et puis, il a mis sur sa propre monture, je pense avec délicatesse. Il était à demi-mort quand même. Donc, il a fait le service d'ambulancier. Et puis, bon, maintenant, il aurait pu dire avant de faire ça, je t'ai soigné, tu te débrouilles un peu. Non, il le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Et l'hôtellerie, pour certains, c'est un peu le symbole, parce qu'on peut interpréter les paraboles de l'Église qui accueille. C'est pas fini. Le lendemain, il tira 2 deniers et donna à l'hôte et dit qu'il donna à l'hôte. À l'hôtelier, prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, eh bien, je te le donnerai au retour. Et 2 deniers, c'était pas mal. Je crois 2 pièces d'argent. C'était 2 journées de salaire. Et pour l'hôte, il pouvait rester là. Il pouvait rester dans l'hôtellerie, en tout cas 1 à 2 semaines. Vous voyez, donc de reprendre des forces. Mais s'il avait eu besoin de plus, eh bien, il avait prévu cela. Alors Jésus, je crois par-dessus tout, voulait enseigner à ce docteur de la loi qui mettait trop en premier la doctrine. Il n'y a pas que la doctrine. Il y a cette clé qui est émue de compassion. Et il voulait faire ressortir cela. D'ailleurs, il lui pose la question, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Eh bien, bien sûr, le Samaritain. Son prochain, ça a été celui qui a été roué de coups. Mais en même temps, c'est une fonction réciproque. Il est devenu proche, parce que dans le mot prochain, il y a le mot proche. Il est proche des autres, il est proche de cet homme qui a souffert. Et Jésus lui dit, toi aussi, va et fais de même. Alors, mais dans cette histoire, je crois que Jésus inscrit aussi sa propre histoire dans cette parabole. Quand je dis dans cette histoire, dans cette parabole. Parce que la façon dont il a pris soin de ce pauvre homme, dont le Samaritain a pris soin, ça nous fait penser à Jésus. Les Samaritains étaient rejetés, Jésus aussi, il a été rejeté. Ce Samaritain a fait preuve d'un grand amour envers le prochain, Jésus aussi. Et puis, aussi, qui est notre prochain ? Je crois que c'est celui qui se trouve sur notre route. Et on n'a pas besoin d'aller le chercher très loin. Il y en a qui ont des besoins. Et puis la façon. Alors, ce n'est pas forcément toujours de donner quelque chose, mais ça peut être aussi une parole de réconfort. Combien c'est important quand on voit des gens autour de nous qui passent par la détresse. Et puis aussi aimer, c'est aller à la rencontre des besoins. Et là, même de son ennemi. Voilà. Donc, Jésus, le parfait exemple du bon samaritain, c'est ce qui doit nous rester ce matin. D'accord ? Jésus, ça n'a pas été seulement comme dans la parabole du publicain et la parabole du pharisien, simplement un bon maître. Mais Jésus, c'est celui qui a pris soin de nous et c'est celui qui prend soin de nous jour après jour. Voilà. Et c'est celui qui nous permet d'obtenir la vie éternelle. Je voudrais vous laisser un verset. Dans l'évangile de Matthieu, il est dit ceci, « Vous venez à moi, Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions. » car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Là, Jésus aussi, c'est un aspect de sa vie et c'est un aspect de sa fonction de bon samaritain. Voilà.